carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Fragonard et l'Arioste, la poésie de l'inachevé. Fragonard et l'Arioste, deux monstres sacrés de l'histoire de l'art au Louvre. Le musée du Louvre à Paris fête en ce printemps 2009 le grand écrivain-poète l'Arioste avec une série de manifestations artistiques, des expositions, concerts, colloques, films, conférences et même des spectacles de marionnettes. Nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement sur l'antenne de Canal Académie. Et l'ouverture de cette fête de l'Arioste parisienne fut donnée par Marianne Dupivaché, historienne de l'art, qui a fait une présentation sur scène de 11 dessins de Jean-Honoré Fragonard sur le célèbre poème « Roland furieux », « Orlando furioso » à l'italienne. Marianne Dupivaché nous a fait le plaisir de venir au studio de Canal Académie pour une présentation privée en quelque sorte, rien que pour vous, chers auditeurs. Marianne Dupivaché, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une fidèle de Canal Académie, on peut dire. Nos auditeurs ont déjà pu vous écouter à l'occasion de l'exposition au musée Jacques Marandré en 2007, « Fragonard, les plaisirs d'un siècle », dont vous étiez la commissaire. Une émission que chacun peut retrouver dans notre médiathèque et télécharger gratuitement. Nos auditeurs ont l'habitude. Fragonard, je pense que vous le connaissez bien. Lors de cette émission, précisément, vous nous aviez confié que Fragonard est venu à vous. Et de manière toute galante, comme il se doit pour Fragonard d'ailleurs, via Pierre Rosenberg de l'Académie française, auprès de qui vous avez travaillé au Louvre pendant une bonne vingtaine d'années, je pense. Et vous avez d'ailleurs organisé avec lui la rétrospective Fragonard au Grand Palais et au Metropolitan Museum de New York en 1987-1988. Jean-Honoré Fragonard, Frago pour les intimes. Quel est pour vous son intérêt, on peut dire, intemporel, sa fascination au-delà des générations? Peut-on l'inscrire dans une modernité ou dans l'actualité?
Ah, c'est assez difficile. Est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui un artiste qui a quelques siècles à créer une œuvre en le rendant obligatoirement contemporain, en le rattachant à l'art contemporain? C'est un peu aujourd'hui comme un exercice obligé. Donc, pour trouver moderne Fragonard, on le compare aux impressionnistes, on le compare même à Pollock, avec cette peinture gestuelle. Je ne pense pas que Fragonard ait besoin de cela. Et c'est vrai que le 18e aujourd'hui, tout au moins toute la première partie du 18e, est un peu en déshérence, un peu négligée, alors qu'on admire au contraire le néoclassicisme et toute la peinture à partir de la Révolution et David. Je pense que le 18e mérite d'être découvert pour lui-même, c'est-à-dire sans essayer forcément de lui trouver une modernité. La modernité, elle est plus, je dirais, plutôt dans l'attitude de Fragonard, son indépendance, un artiste qui s'est un peu moqué de l'académisme et de l'académie. Il a été agréé, mais finalement, il n'a jamais été reçu, il n'a jamais fait d'effort pour être reçu. Il a mené sa vie comme il l'entendait, en créant une œuvre très personnelle, en dehors des mondanités et des salons. Une œuvre très originale qu'on a tenté d'imiter, mais on n'a jamais réussi vraiment à le faire. Et c'est en cela que je pense que Fragonard est intéressant et doit nous toucher, parce que ce n'est pas un artiste qui a cherché à être commercial, même si après, évidemment, au 19e, ses œuvres ont atteint des prix étonnants. Mais c'est vraiment un artiste qui a cherché à comprendre ce qu'il faisait, qui a cherché à s'amuser aussi, donc à se plaire pour plaire aux autres.
Oui, et puis il y a une fougue dans ses traits.
Il y a un mouvement extrêmement séduisant. Mais justement, par rapport à l'art contemporain, on est dans la ligne, souvent dans la rigidité, dans la conceptualité. Là, au contraire, on est très loin, on est dans le concret et dans l'animation.
En tout cas, il nous séduit jusqu'à aujourd'hui, ça c'est
absolument
certain. Donc, venons-en maintenant à Fragonard et l'Arioste. Vous avez signé un beau livre, comme il est de coutume de dire, un ouvrage de près de 400 pages, paru aux éditions de l'Amateur. En quelle année? En
2003.
Réunissant quelques 180 dessins sur ce poème chevaleresque qu'est son Roland furieux. Fragonard, alors, dans toute son œuvre riche et multiforme, d'ailleurs il est connu plutôt comme peintre de scènes galantes et libertines, et il fut particulièrement touché par ce récit, disons, héroïque de Orlando Furioso, Roland Furieux. Pouvez-vous nous dire comment Fragonard, donc au XVIIIe siècle, a eu connaissance de ce poème épique du XVIe?
Alors, c'est quelque chose justement d'assez peu connu dans l'œuvre de Fragonard. Comme vous le disiez, on le connaît surtout comme peintre de sujets galants et on le réduit un petit peu à cette thématique, alors que c'est un peintre extrêmement varié. C'est un des autres intérêts de cet artiste, c'est qu'il a abordé tous les genres, le paysage, le portrait, les figures de fantaisie, la scène de genre, même les sujets religieux. Et il ne s'est jamais cantonné à un seul domaine et finalement, les sujets galants représentent une part assez infime dans son œuvre. Et ce que l'on ignore, c'est que pour beaucoup de sujets, il s'est inspiré de la littérature, qu'elle soit contemporaine ou ancienne. Il a notamment illustré les contes libertins de La Fontaine. Il s'est inspiré de ses contemporains comme Marmontel ou Boufflers. Et puis aussi, il était intéressé, comme d'ailleurs tout son siècle, par Cervantes et le Don Quichotte, qui était un livre de chevet courant à l'époque, au XVIIIe siècle, et le Roland Furieux, Orlando Furioso, qui a connu deux traductions différentes au XVIIIe siècle, justement à peu près dans les années où lui-même Fragonard s'intéresse à ce poème. Et donc il y a un intérêt vraiment important. Il y a une édition illustrée par des grands artistes comme Greuze et Moreau qui va être publiée. Et lui, Fragonard, va de son côté faire sa propre illustration, c'est-à-dire qu'il va entamer l'illustration du Roland Furieux. Vous savez, c'est un immense poème de 40 chants. Et comme bien souvent avec Fragonard, c'est un peu la liberté de l'artiste et aussi ce qui nous déçoit chez lui, c'est qu'il abandonne en cours de route. Et sur les 40 chants, il va n'illustrer que les 16 premiers. Et pour ces 16 premiers chants, on connaît aujourd'hui 179 dessins. Peut-être qu'il y en a encore quelques-uns à en découvrir, mais en tous les cas, déjà, c'est énorme parce que, à son époque, quand un artiste illustre une œuvre littéraire, il crée un dessin ou deux maximum par chapitre ou par chant pour les poèmes. Et lui, Fragonard, il ne se moque de cette quantité, si vous voulez, de ce quota, pour illustrer presque pratiquement toutes les strophes, pour restituer le poème dans toute sa variété, sa richesse et son mouvement. Alors, on peut parler, c'est un peu trivial, de bande dessinée, mais il y a quelque chose un peu de cela dans cette façon de décomposer les scènes et de montrer ses héros dans toutes les variétés de leur mouvement et de leur action.
Tellement les vers de l'Arioste l'ont inspiré.
Il a visiblement été extrêmement inspiré. Alors, ça paraît étonnant aussi parce que ce poème est pas très simple. C'est une langue très riche, très fleurie, avec beaucoup de métaphores. Et surtout, l'Arioste s'amuse à mettre des récits à l'intérieur du récit, et puis d'autres récits, toujours une mise en abîme, qui fait qu'on perd le lecteur. Ainsi, si vous avez déjà essayé de lire ce poème, c'est très compliqué d'arriver à garder le fil. Il faut prendre des notes. Et visiblement, ça n'a pas du tout rebuté Fragonard. Il a été, on a l'impression, stimulé en fait par cette langue de l'Arioste. Parce que une autre des choses surprenantes, c'est que très probablement Fragonard l'a lu dans l'italien. En italien, qu'il devait connaître. Fragonard est né à Grasse, donc à la frontière de l'Italie. Il a fait un premier long séjour de 6 ans, de 5 ans en Italie lorsqu'il était pensionnaire de l'Académie de France à Rome en 1756-1761. Puis il est retourné en 1773-1774. Et la série de Illustrant l'Arioste, on la situe, mais tout est toujours très difficile avec Fragonard à dater, dans les années, fin des années 70, années 80, peut-être même plus tard. Donc il a très bien pu lire le poème en italien, et ce qui permet d'avancer cette hypothèse, c'est que les traductions qui existaient à l'époque étaient très fautives ou lacunaires. Et donc Fragonard n'a pu illustrer certains passages que d'après l'original. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant. Et on sent aussi qu'il a, en composant ses dessins, il a dans sa tête la musique des vers, la musique de l'Arioste, de cette très belle poésie, qui même si l'Arioste nous perd un petit peu parfois, c'est quand même un poème magnifique. Et ça, Fragonard épouse complètement le rythme du récit. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pu avoir qu'avec l'original, puisque les traductions ne sont qu'en prose à l'époque. Aujourd'hui, on dispose de très belles traductions en vers, mais ce n'était pas le cas du temps de Fragonard.
Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour rappeler à nos auditeurs cette très belle émission, je dois dire, je viens de la réécouter, que vous nous avez offerte à l'occasion de l'exposition Fragonard, les plaisirs d'un siècle, où vous nous faites le témoignage de votre découverte que Fragonard, contrairement à la légende ou au cliché, était bel et bien un vrai lettré.
Absolument.
Alors qu'on le présentait plutôt comme un homme un peu superficiel.
Qui savait à peine écrire. Oui. Et en fait, c'est visiblement quelqu'un qui avait une bibliothèque très riche.
Oui. Avant de nous présenter les dessins de Fragonard sur scène, comme vous l'avez fait au Louvre récemment, pourriez-vous peut-être nous esquisser les deux figures qui nous intéressent aujourd'hui? Donc d'abord Ludovico Ariosto, dit l'Arioste, cet écrivain et homme de cour à Ferrare au service du cardinal Hippolyte d'Este, etc. Et ensuite donc peut-être en quelques lignes pour rappeler Jean-Honoré Fragonard.
Alors l'Arioste, vous en saurez encore plus la fois prochaine avec Monica Pretti-Amar. C'est un poète, mais pas seulement poète, c'est un auteur de théâtre, mais c'est aussi un chevalier, un guerrier, comme on l'est souvent à l'époque, un diplomate. Donc il a eu plusieurs vies, une vie très complète, qui lui a permis de connaître bien les hommes et leurs passions, dont il s'est inspiré pour ses poèmes et pour ses pièces de théâtre, qui reflètent tout à fait l'atmosphère galante et courtoise de cette cour des Estes à Ferrare. Donc il a été en effet au service d'Hippolyte d'Este, et son Roland Furioso, il le dédie à Hippolyte d'Este. Et c'est cette dédicace finalement que Fragonard va illustrer en premier quand il va commencer l'illustration du Roland Furieux.
Fragonard, on va peut-être le voir plus en détail tout à l'heure.
Voilà. Parce et que alors c'est Fragonard, lui, c'est
un dessin très important.
Deux siècles après, malgré cet espace, ce temps qui les sépare, semble avoir partagé beaucoup de choses en commun avec l'Arioste. Il semble avoir entretenu une sorte de complicité avec cet autre artiste, cet écrivain. Et Fragonard, lui, est né en 1732 à Grasse, il est venu assez jeune à Paris, et il a entrepris une carrière, on pourrait dire officielle, qu'il a très vite interrompue. Il a d'abord franchi les différentes étapes, l'école royale des élèves protégés, le concours du prix de Rome qu'il remporte assez jeune, le séjour à l'Académie de France à Rome, puis l'agrément à l'Académie.
Oui, il était donc pensionnaire à la Villa Médicis déjà.
Non, c'était pas la Villa Médicis,
c'était Mancini,
c'était Palazzo Mancini, et sur le Corso. Et quand il revient quelques années, mais déjà un certain nombre d'années, 5 ans à peu près, 4 ans pour être agréé seulement à l'Académie avec un immense toit, le Corésus et Caliroé, qu'on peut admirer aujourd'hui au Louvre. Et il ne produira jamais son morceau de réception à l'Académie. Bon, il aura tout de même un logement au Louvre où il va passer toute sa vie pratiquement. Et il va exposer que 2 fois au Salon. Et après, vraiment, peindre pour des amateurs particuliers qui apprécient son style très rapide, très enlevé, qui n'était pas forcément accepté par tout le monde.
Et certainement pas très académique.
Pas du tout académique. Et une œuvre donc très originale. Et il va voyager, il va aller plusieurs fois en Hollande, aux Pays-Bas. Il admire énormément ces peintres nordiques. Et puis, il va retourner en Italie avec un de ses mécènes, Bergeret de Grandcourt, en 1773-1774. Fragonard a épousé une payse, comme on dit, une jeune femme qui était originaire de Grasse comme lui, avec qui il aura 2 enfants, Évariste et Rosalie. Rosalie qui va mourir très jeune, à l'âge de 18 ans. Et Évariste qui, lui, va devenir un artiste très réputé sous l'Empire, qui va avoir une carrière à la fois de peintre, de dessinateur, de graveur et même de créateur de modèles pour la manufacture de Sèvres et de sculpture aussi. Donc un artiste aujourd'hui un peu oublié alors qu'il a une œuvre très importante et qui n'est pas forcément le contraire de celle de son père. Enfin, on sent qu'il a puisé aussi chez son père, mais il fut l'élève de David, donc il a évidemment une formation d'artiste néoclassique. Et Fragonard, lui, va avoir une carrière très courte. C'est son petit-fils, Théophile, qui fut aussi artiste, notamment à la manufacture de Sèvres, qui nous dit qu'à l'âge de 50 ans, déjà, son père était presque démodé, ou en tous les cas, les regards se tournaient vers les nouveaux artistes, vers les nouveaux courants, le néoclassicisme. Mais il y a peut-être d'autres facteurs qui ont fait que Fragonard a été découragé, entre la mode qui avait changé, le décès de sa fille aussi, puis la Révolution qui lui fait perdre sa clientèle parce qu'elle a émigré ou elle a péri sur l'échafaud. Et donc, dans les années 90, Fragonard repart à Grasse quelques temps, peut-être pour se ressourcer. Et quand il revient à Paris, finalement, il ne peint pratiquement plus, peut-être continue-t-il à dessiner. Et il devient conservateur, un des premiers conservateurs avec Hubert Aubert et d'autres artistes du musée du Louvre qui vient d'ouvrir sous la Révolution. Et donc, pendant plusieurs années, il va s'occuper des tableaux qu'il va emmener de Versailles à Paris. C'est en compagnie de Fragonard que la Joconde fait son entrée au Louvre, qui quitte donc les appartements du roi à Versailles et qui arrive au Louvre. Et en tous les cas, donc, la carrière de l'artiste, la fin de la carrière est assez triste, en fait. C'est une carrière très, très courte et qui s'achève un petit peu.
Il tombe un peu dans l'anonymat.
Exactement. Enfin, on se souvenait, les gens qui admiraient la peinture de Fragonard s'en souvenaient. On disait, paraît-il, quand un tableau de lui passait en vente, et il avait encore une cote importante, en jouant sur son prénom, les gens disaient Jean Honoré Fragonard. Jean
Honoré EZ.
Voilà, Honoré Fragonard. Et on se découvrait, paraît-il. Et donc, un artiste respecté, mais qui avait fait son temps.
Et cette série de Orlando Furioso, à quelle époque l'a-t-il réalisé ?
Alors on la situe dans les années 80. Les œuvres de Fragonard, en général, sont très difficiles à dater. Il ne signait rarement ses œuvres. Et quand il les signait, c'était souvent d'un rapide fragot. Il les datait encore moins souvent. Et c'est une des grosses difficultés quand on étudie Fragonard, c'est d'arriver vraiment à trouver, à comprendre son évolution. Surtout qu'à un même moment, il peut avoir plusieurs styles différents. Donc c'est plutôt dans les années 80... Fin des années 70, début des années 80, mais que l'on situe habituellement, que l'on s'entend avec les spécialistes à situer cette série, mais il reste encore beaucoup de points d'interrogation. On n'a aucun point de repère vraiment précis.
Alors après cette incursion dans la vie de ces deux artistes, chacun emblématique vraiment de son siècle, je vous propose une petite échappée musicale et de préférence un des Orlando Furioso. D'entendre un court extrait de Orlando Furioso, opéra de Vivaldi. Quelle merveille! En compagnie de Marie-Anne Dupuis-Vacher, nous pénétrons dans l'univers de Jean-Honoré Fragonard. Avec cette fois un regard particulier sur cette série de dessins inspirés par le Roland furieux de l'Arioste. Marie-Anne Dupuis-Vacher, combien de dessins Fragonard a-t-il réalisé pour l'illustration, si on peut parler d'illustration d'ailleurs, du Roland furieux? Est-ce qu'il, vous l'avez d'ailleurs un peu touché, mais est-ce qu'il suit de près le récit du poète dans cette quarantaine de chants?
Alors justement, il entame son illustration. C'est vrai que le terme est un peu réducteur quand on regarde, quand on feuillette ces pages qui sont extrêmement inspirées, qui ne sont pas du tout, disons, au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois très fidèles, mais en même temps, Fragonard y apporte sa propre interprétation. Et il commence donc avec le premier chant et s'arrête au bout du 16e chant. Alors donc, c'est-à-dire un tiers seulement du poème qui en comporte 40. Et il illustre, il fait des choix évidemment, mais quand il illustre un passage, on a plusieurs dessins, parfois 3-4 pour un même... même strophe. Donc vraiment, il y a une façon de s'attacher à représenter le mouvement, ce qui est vraiment d'ailleurs le Orlando Furioso, c'est le poème du mouvement, comme l'a dit Italo Calvino.
Oui,
et Fragonard lui-même l'interprète.
Oui, oui. Et est-ce que vous pourriez peut-être rappeler brièvement, parce que c'est tellement compliqué, la trame de cette œuvre littéraire épique qui a tant inspiré les artistes ou aussi
alors,
les musiciens
c'est
de
très
la Renaissance
difficile.
À nos jours.
C'est un immense fresque, en fait, et ce n'est pas un récit, mais plusieurs récits. Alors, la trame, ou plutôt l'arrière-plan, c'est la guerre entre les païens, les sarrasins, ou les impies, les infidèles, et les chrétiens, donc les partisans de Charlemagne. Donc, évidemment, c'est une sorte de suite de romans de Cappé-d'Épée, des romans épiques, comme la chanson de Roland. Mais l'Arioste a brodé beaucoup dessus et a inclus énormément de tas de passages, d'histoires, toutes les plus rocambolesques les unes que les autres. Et puis aussi, ce poème est une manière aussi de flatter les estes au service duquel il est, puisque c'est le mariage d'un des héros avec Bradamante qui doit donner naissance à la lignée des estes. Donc c'est une manière de certifier la noblesse de la famille des estes. Donc là aussi, ce poème a une portée poétique, mais aussi politique.
Oui, puisqu'il était au service, donc rappelons-le,
d'Hippolyte
de la dynastie des estes, d'Hippolyte en particulier,
le cardinal
Hippolyte d'Est. Qui avait à son service d'autres peintres comme Primatis, par exemple, sur lesquels nous avons fait aussi une autre émission. Et donc, des récits s'enchevêtrent. Enfin, il y a une multitude de personnages.
Ah oui, absolument, de personnages réels, fantastiques, d'animaux aussi, de mages, de sorcières, de fées, qui donnent un tour parfois extrêmement amusant et humoristique à ce poème. Il y a à la fois ce versant poétique, une très belle langue, des passages extrêmement d'une beauté très, 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 très beau, et puis d'autres, au contraire, burlesques, même rablaisiens, on pourrait dire, assez crus. Et Fragonard, curieusement, alors qu'on l'aurait attendu sur ces aspects-là, il l'a plutôt gommé ou même écarté. Il s'est plutôt attaché à l'aspect poétique et à la beauté des histoires, à leur côté magique, irrationnel, mais pas du tout aux côtés les plus crus et les plus vulgaires.
Ah bon?
Oui.
Parce qu'il y aurait des
passages
aussi,
bien sûr. Ah oui, oui.
D'accord. Mais on peut quand même faire ressortir quelques principaux personnages, comme bien sûr la belle Angélique, très très orgueilleuse.
Oui, c'est la fille de l'empereur de Chine. Alors elle a été raptée par le neveu de Charlemagne, et c'est en effet un des personnages après lequel tous les chevaliers vont courir et vont se la disputer.
Tout le monde tombe amoureux d'Angélique, et en quelque sorte c'est une course de chevaliers pour posséder l'amour de cette Angélique. Et beaucoup de récits, si j'ai bien compris, tournent autour de ce...
Entre autres, il y a Angélique, mais il y a aussi Bradamante qui pleure son fiancé, qui n'arrive jamais à le saisir puisqu'il est happé par d'autres histoires. Il y a des tas de personnages comme ça que l'on retrouve, que l'on perd, auxquels on finit par s'attacher parce que Larios, d'une part, mais aussi Fragonard dans ses illustrations, arrive à nous les rendre très proches avec des sentiments et des passions que l'on pourrait partager.
Ben justement, alors allons-y tout de suite. On va peut-être voir quelques dessins en détail, donc avec les différents personnages, par exemple cette Angélique fameuse, ou les différents chevaliers, ou le fantastique Hippogriffe, etc. Alors, on va commencer à feuilleter votre magnifique catalogue, et on commence peut-être avec la page qui est le premier dessin que vous présentez dans ce catalogue, qui est donc l'Arioste dédie son poème à Hippolyte d'Este. Si vous voulez bien nous faire une petite description.
Un beau face-à-face entre un artiste et son mécène. Et là, on peut s'interroger de savoir si Fragonard finalement ne s'est pas identifié à l'Arioste, puisque Fragonard s'est trouvé aussi dans ce genre de situation avec ses mécènes, que ce soit l'abbé de Sanon ou bien Bergeret de Grandcourt, avec qui il est retourné en Italie. Et l'on voit l'artiste à droite en train de déclamer son poème dans une attitude extrêmement tendue, tandis que le mécène, très nonchalamment, une main soutenant sa tête, les cheveux ébouriffés, écoute d'un air mi-satisfait, mis un peu indifférent peut-être, son artiste. Et Fragonard, là, a bien capté les vers du poète que l'on peut lire. Donc,
Est-ce que je peux vous demander peut-être de nous lire ces deux strophes?
C'est l'Arioste qui parle et qui dit à son mécène « Daignez, ô descendant magnanime d'Hercule, ornement et splendeur de ce siècle, daignez Hippolyte agréer le don que veut offrir, le seul qu'il peut donner, votre humble serviteur. Tout ce que je vous dois, je ne peux qu'en partie le payer par des mots, par l'œuvre de ma plume. Ne me reprochez pas de vous donner si peu, car je vous donne autant que je puis vous donner. » Donc, vous voyez, là, c'est l'Arioste qui se fait modeste et humble, mais en même temps d'une manière un petit peu ironique, et qui poursuit ainsi. « Vous m'entendrez citer, parmi les pré-héros dont je m'apprête ici à célébrer la gloire, le nom de ce Roger qui fut l'antique souche de vos nobles aïeux, ainsi que de vous-même. » Je chanterai pour vous sa valeur éclatante et ses exploits fameux, si vous prêtez l'oreille et si, en s'écartant, vos sublimes pensées laissent un peu de place à mes vers parmi elles. » Donc là, on voit que l'Arioste, le poète, flatte énormément son mécène et donc annonce le programme de son poème, puisqu'il va évoquer tous les aïeux d'Hippolyte d'Este. Et Fragonard a évoqué très légèrement dans les cieux ces petits personnages qui vont après apparaître dans le poème.
Oui, et que nos auditeurs trouveront, bien sûr, sur le site internet, parce qu'on va essayer de trouver
quand
même.
Oui, c'est un dessin qui se trouve au Louvre.
Oui. Ah oui, ça, c'est une autre question que je voulais vous poser. Celui-ci est au Louvre.
Voilà, oui. Beaucoup de ceux que j'ai présentés au Louvre appartenaient tous au Louvre, hein, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire venir d'autres, sauf deux qui venaient de collections parisiennes. Mais sinon, ils appartenaient au Louvre. Et aujourd'hui, mais ce sont les seuls que le Louvre possède, c'est-à-dire 7 ou 8 dessins. Mais cette série, qui était restée groupée dans les mains des descendants de Fragonard jusqu'à une date assez tardive, ont été achetés en bloc par un grand collectionneur de Fragonard, Walferdin, puis la vente de Walferdin à la fin du 19e par un bibliophile très intéressant, Rödröhr, qui a dû vendre à son tour lui-même la série dans son entier. Après la Première Guerre mondiale, Rödröhr, vous savez, ce sont les champagnes, et les vignes avaient été complètement détruites par la Première Guerre. Et donc, il les a revendues pour refaire ses vignes à un autre bibliophile très intéressant, mais américain, de Philadelphie, Rosenbach, le docteur Rosenbach, qui les a conservés à Philadelphie très longtemps. Puis à partir des années 40-50, ils ont commencé à être dispersés et vendus. Donc aujourd'hui, ils se trouvent en grande partie aux États-Unis, dans des collections privées ou publiques, dans des musées à Philadelphie, à New York, à Washington, mais aussi beaucoup en main privée. En France, il y en a quelques-uns. Il y en a aussi à Londres, en Allemagne.
Il y a la fameuse collection à Besançon.
Il n'y a aucun, cette série-là. Non, la collection
de cette série-là.
Non, aucun. Non, là, je parle vraiment que de la série de Larios qui a été dispersée. La collection de Besançon vient de la collection Pierre-Adrien Paris, un contemporain de Fragonard. Donc ça, c'est complètement autre chose. Non, la série de Larios est vraiment restée groupée entièrement et partie entièrement aux États-Unis, puis de là a été dispersée il y a un demi-siècle.
Et aujourd'hui, on peut encore rêver, trouver éventuellement.
Il y en a sur le marché, oui, régulièrement. Oui. Au Salon du Dessin, il y a 2 ans, il y en avait 10 qui étaient proposées. Oui, bien sûr. À partir du moment où il y en a peut-être les 3/4 sont encore en main privée, donc elles passent en vente. Ça circule.
Formidable, il faut avoir l'œil.
Mais malheureusement, du coup, elle est éclatée, donc on perd la continuité.
Oui. Est-ce que vous voulez choisir un autre dessin?
Vous me proposez Mélisse qui galope vers l'île d'Alcine. Alors Mélisse est une fée bienveillante, parce que dans ce poème, il y a aussi des fées qui sont des sorcières. Celle-ci est une fée bienveillante qui va essayer d'aider Bradamante à retrouver son fiancé. Alors Fragonard l'a représentée en Amazone, sur son cheval, le bras droit dressé, tenant sa baguette magique et donc guidant son destrier vers l'île d'Alcine. L'île d'Alcine, justement, qui elle est une fée, mais qui est en fait une fée très malfaisante et qui n'est qu'une sorcière, mais qui a des apparences tout à fait séduisantes et qui retient justement le fiancé de Bradamante sur son île. Et donc là, Mélisse part au galop. Il y a vraiment un mouvement avec cette diagonale donnée par le cheval qui franchit les flots d'un seul bond.
Et là aussi, il y a évidemment le texte.
Ah oui, alors l'enchanteresse alla vers un autre côté et pour réaliser la pensée qu'elle avait, elle fit apparaître un pâle froid le soir dont un pied était rouge et tout le reste noir. Donc ça, c'est ce côté un peu terrifiant des animaux que Larios donne, mais que Fragonard ne veut pas restituer. Ces dessins, je ne l'ai pas encore dit, mais ils sont tous au lavis, sur une esquisse à la pierre noire très rapide. Hein. Quelques-uns sont un peu... La pierre noire a été estompée, pour notamment griser les nuages, mais sinon c'est uniquement les touches de la vie qui arrivent à modeler, à donner le relief sur une esquisse à la pierre noire.
Ah, voilà, ensuite on peut peut-être passer à cette fabuleuse histoire de Roger qui attaque l'orque. Alors là c'est toute une épopée en soi déjà.
Ah oui, alors Roger est en train de chevaucher un animal fantastique, un hippogriffe. L'hippogriffe, la tradition veut que ce soit un cheval ailé avec une tête d'aigle, c'est-à-dire un bec d'aigle, un poitrail couvert de plumes et des griffes d'aigle aux sabots. Et Fragonard, finalement, interprète à sa manière cet hippogriffe et il ne donne pas du tout un aspect terrifiant. Il en fait plutôt un animal sympathique et complice, ami des héros dont il va détourner la destinée. Et là, l'hippogriffe a pris Roger, l'a en quelque sorte enlevé. Et cet hippogriffe qui ressemble plutôt finalement à Pégase de la mythologie a permis à Roger de survoler la mer et de là, il a aperçu une jeune femme toute nue accrochée à un rocher, il s'agit d'Angélique. Et donc il va s'approcher du rocher, l'hippogriffe est vraiment complice du héros parce qu'il va l'aider à gagner cette bataille contre l'orque, cette bête monstrueuse qui s'apprête à dévorer Angélique. Et pendant ce temps, Roger penché au-dessus de son destrier, essaie de battre la bête, tandis que l'on voit la pauvre Angélique éclaboussée par la mer. Alors là, on peut lire encore à nouveau l'Arioste pour sentir cette poésie extrêmement mouvementée. Et voici qu'apparaît la bête gigantesque, mi-cachée sous les eaux et mi-sortie de l'onde. De même que poussée par austère ou borée, un grand navire vient accoster dans le port. De même aussi, ce monstre affreux s'en vient chercher la pâture qu'il voit. Et la distance est courte. Mais Angélique est à moitié morte de peur, ne trouvant d'assurance en aucun réconfort. Et alors Fragonard nous montre cette bête, cet orque, avec des gros yeux globuleux, que s'apprête à tuer Roger avec
Quelle
son épée.
Fabuleuse aventure.
Oui, c'est une histoire fabuleuse. Il faut en prendre un petit peu, il faut avoir un peu de courage pour attaquer la lecture du Roland Furieux, mais ça vaut la peine parce que c'est vraiment une histoire extraordinaire. Et avec Fragonard, ça devient plus facile.
Absolument, oui. Et vraiment, on commence à s'attacher à ces personnages.
Ils deviennent concrets, voilà.
Parce que c'est très humain. Bien sûr, il y a un énorme imaginaire, mais c'est quand même très, très humain dans son récit, évidemment, merveilleusement traduit.
Et plein d'humour aussi, merveilleusement
traduit.
On sent que Larios s'amuse.
Par Fragonard.
Larios s'amuse en écrivant l'aventure de ses héros et Fragonard s'amuse en les illustrant. On sent un véritable plaisir.
Et ensuite, sur la page suivante, Roger terrasse donc le monstre grâce à son bouclier magique. Là aussi, il y a des strophes fantastiques. Il prit donc le parti, et ce fut le meilleur, de vaincre l'affreux monstre au moyen d'autres armes, car il veut l'éblouir en dévoilant l'éclat dont, par enchantement, brille son bouclier. Il vola sur la rive et par crainte d'erreur, s'approchant de la dame attachée au roc nu, il lui passa au plus petit doigt de la main cet anneau qui pouvait briser l'enchantement. Et voici sur la rive, écrasant sous son ventre une moitié de mer, l'énorme cétacé. Roger est aux aguets. Il enlève le voile et semble dans le ciel mettre un autre soleil. La lumière enchantée a frappé dans les yeux de la bête et produit son effet ordinaire, comme truite ou gardon qui descend dans le fleuve, troublé par cette chaux qu'a mise un montagnard. Ainsi apparaissait dans l'écume marine le monstre renversé d'une horrible manière.
Et alors c'est très amusant parce qu'il a représenté du coup l'hippogriffe. Lui ne pouvait plus être d'aucun secours parce qu'à cause de la mer, ses ailes prenaient l'eau et il risquait de se noyer avec Roger. Donc il est remonté un peu dans les cieux et il regarde Roger attaquant l'orque avec le bouclier et d'un air un peu penaud, il aurait bien aimé participer au combat jusqu'au bout.
Oui.
C'est extrêmement suggestif alors que ses dessins sont très rapides et ils sont très expressifs.
Et puis il y a le moment où Ferragus retrouve Angélique.
Ah oui, Ferragus, alors c'est un autre chevalier sarrasin et qui court après Angélique. Et Angélique, elle, a cet anneau magique qui permet, quand on l'avale, quand on le met dans la bouche, de disparaître, de devenir invisible.
Oui.
Donc c'est pas très facile pour un illustrateur de représenter quelqu'un d'invisible. Et Fragonard arrive à jouer avec ça. Et ça c'est un tour de force. Et on comprend pourquoi beaucoup d'illustrateurs sont un peu calés devant l'illustration de l'Arioste. Et là Fragonard vraiment a trouvé des solutions finalement avec justement son crayon très rapide, ce lavis très, très souple, très virtuose, pour rendre tous ces aspects les plus fantastiques et magiques du récit.
Est-ce que vous avez envie de nous présenter un autre, peut-être encore ?
Il y en a un qui m'amuse beaucoup, c'est avec Dieu le Père. Parce que Charlemagne, pendant toutes ses aventures, quand même, lui a de gros soucis. Il est assiégé, il est à Paris, encerclé par les Sarrasins. Et donc, il attend que ses neveux arrivent quand même et que ses neveux prennent leur temps en étant détournés par des belles jeunes femmes. Et alors, Charlemagne implore Dieu le Père. Et Dieu le Père va envoyer l'archange Saint-Michel. Et là, on voit Dieu le Père représenté par Fragonard. C'est quand même assez amusant. Un peu comme un vieux grand-père drapé dans une grande toge, une sorte de Moïse avec des cheveux ébouriffés tendant la main, tandis que l'archange Saint-Michel s'incline pour obéir à Dieu le Père, qui va lui indiquer d'aller accompagner les troupes qui doivent venir en renfort, notamment celle de ses neveux, de façon à les rendre silencieuses et invisibles. Donc vous voyez, même Dieu le Père se mêle de magie.
Oui, c'est vraiment plein de magie.
Et là, il y a un dessin fabuleux qui est au musée de Francfort, qui a été acheté d'ailleurs assez récemment par le musée de Francfort, où Saint-Michel, donc pour accomplir sa mission, il ne peut pas tout seul rendre invisibles et silencieuses les armées. Donc il va voir, il va dans l'antre du silence, il va trouver le silence et que nous représente Fragonard avec ses babouches qui le rendent silencieux, un doigt sur la bouche qui nous indique bien de qui il s'agit. Et ce dessin est extraordinairement fort avec un crayon noir très appuyé qui fait un peu
qui préfigure un peu.
Voilà, ce sont des comme des fils de fer jetés dans l'espace qui arrivent à quand même à figurer les personnages. Et il y a quelque côté prédomier un peu dans cette composition extrêmement à la fois dynamique et sans être caricaturale et très expressive. Voilà, c'est ça qui est un peu qui vous parlez de modernité là.
Oui.
Fragonard, il y a une liberté, c'est une liberté que d'autres artistes n'ont pas. Les illustrations à l'époque, quand on feuillait des livres du 18e siècle, ce sont des petites vignettes, on appelle ça des vignettes. Il y a des artistes spécialisés dans les illustrations, on les appelle des vignettistes. C'est un côté un petit peu péjoratif. Et c'est des artistes qui illustrent un sujet sans même forcément connaître toute l'histoire, qui se concentrent sur une représentation très fidèle d'un personnage, représenté devant son château, devant son jardin, parlant à une personne. C'est extrêmement descriptif et minutieux. Et là, Fragonard, il arrive à faire complètement autre chose. Alors évidemment, ces dessins ne pouvaient pas être gravés. C'est impossible de graver des dessins. C'est peut-être pour ça aussi que le projet a échoué et qu'il s'est interrompu en cours de route. Mais il y a quelque chose dans le projet de Fragonard de vouloir dépasser justement ces illustrations dans ce qu'elles ont de petit, de minutieux et d'un peu ennuyeux, il faut dire ce qui est.
Alors que c'est tout l'inverse.
Alors qu'avec Fragonard, au contraire, on est saisi, on est amusé, on feuillette, on a envie d'avancer, justement. C'est vraiment des images qui aident à la progression du récit et non pas qui sont là juste simplement pour donner des petits, pour rythmer des chapitres ou des chants.
Non seulement très
c'est un
très
vrai
charnel,
rôle, un vrai rôle dans le récit.
Mais aussi très
il y a une rivalité, en fait, entre l'écrivain et l'artiste qui s'instaure comme
oui.
ça.
Oui, mais c'est peut-être ça qui caractérise le plus cette série de dessins.
Oui, c'est vraiment, je vous le disais, un peu cette espèce de dialogue que Fragonard réussit à entretenir avec l'Arios, dont il fera d'ailleurs un très beau portrait imaginaire. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas un projet anodin dans l'œuvre de Fragonard. C'est en quelque sorte, pour ces 179 dessins, c'est une sorte de récapitulatif de son œuvre. On a l'impression qu'il a tout son acquis. Il y a des dessins qui rappellent un peu son séjour en Italie, quand il y a un personnage qui vient faire évader une jeune fille d'un jardin, on a l'impression d'être à Venise. Il y a d'autres sujets qui s'inspirent aussi de Rubens, un des artistes qu'a beaucoup admiré Fragonard, notamment pour les monstres, les géants. Il y a une façon de représenter cette musculature qui a un côté très rubénien. Et puis il y a d'autres aspects galants, d'autres aspects plus humoristiques. On a vraiment l'impression d'une espèce de feu d'artifice où Fragonard donne tout ce qu'il sait faire, comme ça, dans cette série. Et c'est là, pour cela qu'elle est très riche. Et jusqu'à présent, malheureusement, elle était un peu minoré ou ignoré, parce qu'on a l'habitude de penser que l'illustration, c'est quelque chose de mineur dans l'œuvre d'un artiste. Il fait ça pour gagner de l'argent, ou il a fait ça comme, bon, en passe-temps. Et chez Fragonard, ça a vraiment un rôle très important dans
son
œuvre.
C'est une vraie œuvre en
absolument,
soi, absolument.
En soi, oui.
Est-ce que vous avez peut-être un dessin que vous aimez plus que les autres ?
Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a peut-être... Ah, si ! Alors, justement, sur l'île d'Alcine, cette fée qui est un peu malfaisante puisqu'elle retient les hommes chez elle sous un jour très séduisant alors qu'elle n'est qu'une épouvantable sorcière. Mais alors, Fragonard nous la montre justement sous son jour très séduisant. Et alors justement, quand elle retient Roger, là, le fiancé de Bradamante, il y a une très belle page où Roger va se coucher le soir. Donc il est dans sa chambre, un joli lit qui n'est pas du tout du XVIe siècle. Hein. C'est tout à fait un lit à baldaquin que l'on pouvait trouver dans des chambres au XVIIIe siècle. Donc là, Fragonard se moque complètement de restituer par rapport au temps du poème. C'est le temps en fait intemporel que Fragonard a choisi. Et Roger est assis sur le bord de son lit et étreint Alcine, que le poème nous dit être vêtue simplement d'une voile transparent. Alcine lève un petit pied délicat, elle étreint aussi Roger, et la porte est entrouverte et le zéphyr passe et anime le voile du baldaquin et la tenue légère d'Alcine. Et ça, c'est une très belle page poétique. C'est un peu en quelque sorte le verrou façon graphique.
Oui.
Il n'y a pas la même tension que dans le verrou, et c'est au contraire peut-être la passion ici plus que la tension qui est mise en scène.
Écoutez, Marianne Dupuy-Vacher, vraiment un grand merci de nous avoir permis de plonger notre regard plus profondément dans une partie de l'œuvre de Fragonard. Mais quelle partie de l'œuvre ? Et puis, je rappelle à nos auditeurs qu'il y a plusieurs émissions sur Fragonard que vous avez réalisées dans nos studios Il y a aussi d'autres émissions que nous avons réalisées avec Pierre Rosenberg de l'Académie française, que nos auditeurs peuvent trouver donc sur www.canalacademie.com dans notre médiathèque.
Et vous parliez tout à l'heure de Besançon. Pierre Rosenberg était venu, je crois, à l'occasion de l'exposition des dessins de Fragonard à Besançon.
Oui.
Et cette exposition va être reprise intégralement au Musée des Beaux-Arts de Caen à l'automne prochain, donc en mois d'octobre prochain jusqu'au mois de janvier, donc 2009-2010. Toutes les Fragonard du Musée de Besançon, qui est très riche en dessins, tableaux de Fragonard, seront exposées au Musée des Beaux-Arts de Caen. Donc
voilà une deuxième occasion pour les revoir.
Voilà.
Un grand merci, Marianne Dupivaché, et j'espère à une très prochaine fois.
Merci, à bientôt.